Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Alexis Corbière qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, bonjour Alexis Corbière.
Bonjour Patrick Roger.
Les chiffres de l'épidémie commencent à devenir plus encourageants, d'après ce qu'a dit et ce que dit ce matin Olivier Véran. Est-ce que le gouvernement a donc pris la bonne décision en imposant ce reconfinement ?
Non, déjà, je suis content. Si on atteint le pic, on va voir, il faut être prudent. Faut féliciter tous les Français, tous, que ce soit les salariés, que ce soit, je pense, à tous les petits commerçants, vous leur avez donné la parole tout à l'heure, tous ceux pour qui c'est très dur, c'est des mesures extrêmement sévères qui ont été prises. Nous considérions que la difficulté, c'est que entre le premier confinement et le second, peu de choses avaient été faites pour éviter le choc de cette deuxième vague. Déjà, le débat autour de la deuxième vague avait eu lieu. Jean-Luc Mélenchon était de ceux qui avaient dit « Attention, il y aura une deuxième vague, préparons-la ». On lui avait un peu ri au nez, les mêmes aujourd'hui au gouvernement, qui ont été obligés de prendre des mesures extrêmement sévères quand même, qui impactent nos vies. Alors si ça produit des effets, tant mieux, c'est le but. Mais le coût aura été terrible sur le plan économique, sur le plan social. Moi, c'est l'élu de Seine-Saint-Denis qui vous parle, doit vous dire quand même que, enfin c'est pas un scoop, ça a déjà été dit, mais les hôpitaux sont surchargés, le taux de mortalité est plus élevé chez nous. Les salariés, la situation de ceux, vous savez, on parlait premier de cordée, premier de corvée. Chez moi, en Seine-Saint-Denis, c'est les premiers de corvée, ceux qui se lèvent tôt le matin. Les tramways, les RER, pour ceux qui sont en région parisienne et connaissent ça, restent très pleins. Bon, beaucoup de questions ont été posées. Mais si ça produit un effet, tant mieux. Moi, j'espère qu'on pourra, dans les meilleurs délais, sortir de là. Mais attention à ce que, si chaque fois on ne tire pas la leçon, c'est-à-dire augmentation des moyens d'accueil à l'hôpital public, véritablement politique pour tester plus importante. Alors maintenant, il commence à avoir des effets. Mais gratuité des masques, etc. Puis, on peut avoir une troisième vague, on peut avoir une quatrième vague.
Oui, parce qu'on va vivre avec ce confinement et avec le virus au moins jusqu'à l'été 2021. C'est ce que dit le Premier ministre.
Moi, j'écoute les scientifiques. Ouais, le Premier ministre, écoutons d'abord les scientifiques, le conseil scientifique.
Vous faites confiance au conseil scientifique, justement ?
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire confiance à la science, même si j'observe évidemment que même parmi les scientifiques, il y a un débat, parce que les épidémiologistes, parfois, apprécient les choses de manière un petit peu différente. Mais évidemment, non, mais je veux dire, le politique, dans des moments comme ça, il doit créer les conditions. J'évoquais tout à l'hôpital public, comment on donne les moyens à l'hôpital public d'avoir des capacités d'accueil plus importantes, comment on ouvre plus de lits de réanimation. Rappelez-vous, avant même que la crise du Covid ait commencé, que nos personnels hospitaliers étaient mobilisés, étaient dans la rue, parce qu'ils disaient attention l'hôpital public, et en raison des politiques de réduction de moyens, est en danger. C'est ça, ne perdons pas la mémoire.
Les directeurs d'hôpitaux faisaient appeler eux-mêmes à la grève.
Un hôpital André Grégoire à Montreuil, il doit payer chaque année 8 millions d'euros pour rembourser une dette qui est stupide. Et aujourd'hui, on a très peu de lits, je crois qu'on a 7 lits ou une dizaine de lits pour un bassin de 400 000 habitants. En Seine-Saint-Denis, l'hôpital public est 4 fois moins de capacité d'accueil qu'à Paris, par exemple. Tout ça, j'ai envie de reprendre les mots d'Emmanuel Macron, qu'il y ait des leçons qui soient tirées de tout ça. J'observe que du point de vue quand même de l'amélioration du service public, vous savez, c'est beau le service public. Il y a une époque, c'était la mode un peu de critiquer les fonctionnaires, le service public, mais heureusement qu'il est là.
L'administration est parfois un peu lourde quand même. C'est ce qu'on dit dans l'application.
C'est ce qu'on dit. Vous savez, dans le privé, il n'y a pas une administration parfois qui ne fiche pas grand-chose avec des gens.
Sur cette administration.
Revenons à l'essentiel.
Il faut le reconnaître sur les écoles. Pourquoi, en fait, dans certains établissements, il n'y a toujours pas d'alternance? Il a fallu, en fait, attendre un certain temps.
J'applaudis ce que vous êtes en train de dire. Qu'il a fallu des lycées mobilisés en grève, des lycéens, des enseignants, pour arriver à ce que M. Blanquer admette qu'effectivement, il faudrait organiser les cours en demi-groupe. Moi, je suis prof depuis 25 ans. Je connais bien cette affaire-là. Si on veut des cours en demi-groupe, il faut aussi qu'il y ait des personnels éducatifs qui éventuellement aient été embauchés dès la rentrée pour pouvoir venir le coup. Pourquoi pas tous ces étudiants aujourd'hui?
Il faudrait le faire dans les collèges aussi, parce que pour l'instant,
c'est
limité au lycée.
Oui, dans les lycées, parce que le travail en demi-groupe, ça ne s'improvise pas. La réalité, après le premier confinement, on a dit beaucoup d'élèves avaient été sortis des radars des enseignants pendant la période du premier confinement. Il faut des moyens humains pour les frapper aux portes. Pourquoi les enfants ne sont pas venus? Et on s'aperçoit souvent que aussi les difficultés sociales répercutent les difficultés scolaires. Tout ça, c'est pour ça que je dis, bien sûr que Emmanuel Macron n'est pas responsable du Covid. Par contre, ce dont il est responsable, selon moi, c'est d'une politique économique qui fait que l'effet du Covid est particulièrement douloureux. Notamment, je l'ai dit, parce que l'hôpital public avait été affaibli, parce que notre éducation nationale aujourd'hui, du point de vue des moyens de l'enseignement aussi, est affaibli, etc. etc. Bon, si on commence à s'en sortir, à voir un peu le bout du tunnel, tant mieux.
Le début du tunnel. Est-ce qu'il faut de nouveau autoriser aussi les cérémonies dans les lieux de culte? Il y aura une réunion ce matin.
Alors, bon, vaste sujet, on en parlait avant que l'émission commence. Bon, la question de la liberté du culte est une question extrêmement sensible. Attention, c'est vraiment quelque chose, quel que soit qu'on soit croyant ou pas croyant. Bon, nous, on était quand même pour créer les conditions on a eu un débat à l'Assemblée nationale, qu'il puisse y avoir, sous une forme très adaptée, en respectant des normes quand même, une capacité dans les lieux de culte à accueillir certains fidèles qui ont besoin, beaucoup de gens le disent, il y a des gens, ils ont besoin de ça. Bon, ça a été refusé. Après, il ne peut pas y avoir des règles à géométrie variable, de toute façon, et évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait que effectivement, les lieux de culte ne doivent pas être des clusters, mais je répète que quand même, attention, c'est un sujet extrêmement sensible qu'il ne faut pas regarder un regard ironique.
J'ai pas compris, Alexis Corbière, alors. Oui. Vous êtes favorable ou pas à ce qu'il y ait des cérémonies ?
Bah, actuellement, il n'y en a pas en bon enterrement, c'est 30 personnes. Oui. Ça, c'est autorisé. Mais j'aurais été pas défavorable à ce que, en fonction de le respect de conditions d'accueil, de consignes sécuritaires, il puisse y avoir un certain nombre de gens, limités pourquoi pas, qui puissent participer.
Bon, donc vous êtes favorable à ce qu'il y en ait, mais avec des jauges, quoi.
J'étais pas, oui, et j'étais pas pour la totale interdiction, du moins c'est le sens de l'intervention qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, de dire attention, interdire la pratique du culte est quelque chose de sensible, et c'était un peu brutal, on aurait pu imaginer autre chose.
Quelles que soient les religions, hein, bien sûr.
Ah oui, quelles que soient les religions, ça c'est évident, j'ai vu qu'il y a certains fidèles d'une certaines régions qui sont mobilisées actuellement, mais ce que je dis ne concerne pas...
Parce qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent.
Oui,
quand
je
même
peux
temps.
Comprendre. Non, mais là encore, c'est un débat qui n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme, vous savez, les produits essentiels, les choses comme ça. Quel que soit, vous savez, dans ce pays, la majorité des gens ne sont pas croyants. Mais il y a des gens qui sont croyants. Eh bien, pour les gens qui sont croyants, c'est quelque chose de très important. Mmh. Et pour moi, qui suis aussi prof d'histoire, la question de fermer les lieux de culte, c'est quasiment jamais arrivé dans notre histoire nationale. Attention, si on peut l'éviter ou on peut le réduire, moi, je suis plutôt là-dessus, mais... Voilà, que les choses soient claires, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. D'accord. Et il y a peut-être des lieux de culte où il y a des choses qui étaient dangereuses qui étaient faites, mais on peut trouver des organisations. Bon, ça, ce n'est pas la décision qui a été prise. Voilà, on
mais
est là
à ce stade. Mais il y a encore une réunion ce matin, donc on verra. Alexis Corbière, vous appelez demain à un rassemblement devant l'Assemblée nationale avant le débat sur la sécurité globale. Une sécurité globale qui passe par de nouvelles prérogatives pour les polices municipales, notamment comme la verbalisation directe des ventes à la sauvette, de l'usage de stupéfiants. Qu'est-ce que vous contester.
Alors, c'est une loi à l'initiative de députés, mais en vérité, à mon avis, c'est le gouvernement qui cherche à faire passer une loi en disant que c'est à l'origine des députés. Alors, c'est quoi le fond du sujet ? C'est une loi dite sécurité globale. C'est une loi qui va, là vous évoquiez, je prends les cinq premiers articles, qui donne plus de pouvoir à la police municipale, par exemple, le droit de porter des armes, le droit d'avoir des possibilités d'investigation plus importantes que ce qu'elles avaient auparavant. Moi, déjà, le reproche que je fais, c'est que la police nationale a des moyens en moins qui baissent. Je prends l'exemple du commissariat de chez moi en 10 ans, c'est 30 policiers en moins. Et souvent, on va demander aux communes, selon ses moyens, de compenser ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pour une police nationale. Je dis, c'est pas la même chose. Un policier national qu'un policier municipal qui peut jouer un certain rôle, mais qui doit rester un rôle basique, si je puis dire. Après, il y a une gadgetisation du rapport à la sécurité qui me pose problème. L'utilisation de drones, plus importante. Ça peut vous sembler un détail, mais encore dernièrement, une dame qui avait déroulé une banderole parce que Monsieur Macron était venu, qui voulait défendre l'hôpital public, a été suivie jusqu'à chez elle par un drone et interpellée, passée plusieurs heures en garde à vue. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette évolution de la technique. Et enfin, pour terminer, il y a surtout désormais, il y aurait une interdiction, si vous filmez une interpellation de police, d'accord, et que de le diffuser, le policier peut dire on me reconnaît, il y a les moyens de m'identifier, ce qui reste très fou d'ailleurs, ce qui sont les moyens d'identifier, et vous vous retrouvez sanctionné. Alors, je prends un exemple très concret, monsieur Cédric Chouvia, vous en avez entendu parler, c'est ce livreur qui, à l'occasion d'une interpellation, échange de mots avec la police, le ton monte, j'en sais rien, bah, quoi qu'il en soit, après, il est bloqué, interpellé, etc., et il perd la vie au cours de cette interpellation. La première version de la police, c'est de dire à l'épouse de Monsieur Chouvia, votre mari a fait un malaise, excusez-nous madame. Sauf que des images sont montrées et on s'aperçoit que la réalité n'est pas celle-là. Donc nous avons besoin, et j'ai envie de dire Monsieur Patrick Roger, vous avez besoin, vous qui êtes journaliste aussi, pour faire votre métier, de pouvoir travailler et éventuellement...
Après, c'est l'utilisation qui peut être abusive sur les réseaux sociaux. C'est ce que défend notamment le député Jean-Michel Fauvergue.
Mais aujourd'hui, la loi interdit qu'un policier soit menacé. La loi l'interdit, évidemment. Vous n'avez pas le droit de dire monsieur machin, non, monsieur le commissaire Roger...
Que les images soient diffusées sur les réseaux sociaux, quoi. Et que qu'on voit les policiers et les gendarmes.
Et pourquoi ? Pourquoi elles ne devraient pas l'être ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à cacher ?
C'est la protection, en fait, de ces gens qui sont en mission. Voilà, puisque visiblement, les violences contre les policiers ont doublé en l'espace de 15 ans. 20 policiers blessés en mission chaque jour.
Ce n'est pas exact que quelqu'un, parce qu'il se fait reconnaître. Mais, enfin, écoutez, c'est une question. Pour quelle raison ? Moi, j'ai une haute idée du travail de policier, qui est un travail difficile. Maintenant, parce que je pense que c'est un travail difficile, il est hors de question aussi, par rapport à la conception républicaine que je me fais de la police, qu'il y ait ces images parfois un peu indignes, où des gens au sol se font frapper par plusieurs policiers, etc., etc. Alors que, bon, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que je veux vous dire, vous, moi, tous, dans notre poche, maintenant, avec les téléphones, on a une caméra. Ouais. Et il se fait cette pratique de plus en plus importante où on filme ça, et ça crée un débat dans la société qui amène à ce que le défenseur des droits, c'est pas la France Insoumise, beaucoup d'autres associations, la Ligue des droits de l'homme, des journalistes disent attention, il y a un film magnifique de David Dufresne, vous avez peut-être parlé ici.
Oui.
D'accord. Est-ce que vous savez que la grande majorité des images qu'il y a dans ce film de David Dufresne, un pays qui se tient sage, serait interdite? Moi, franchement, je suis pas pour le retour à l'ORTF et à la France où désormais les journalistes doivent envoyer leurs papiers au directeur pour savoir ce qu'il y a, si on a le droit de le dire ou pas. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on censure des films. La police, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur paye leurs heures supplémentaires, c'est qu'on leur donne les moyens de bosser. Moi, je suis un élu de banlieue. Dans ma banlieue, le problème des policiers, souvent, c'est que les véhicules, ils marchent pas bien. Le problème du commissaire Delila, c'est que c'est des préfats dégueulasses. Les ordinateurs qui marchent pas toujours bien. Donc, on donne les moyens à la police de travailler à l'heure actuelle. Vraiment, qu'on embauche des personnels. Mais cette gadgetisation de la police que j'évoquais tout à l'heure, des drones, des machins, plus le fait que désormais, parce que des syndicats de police très durs, d'une droite dure, en plus je le nomme comme ça parce qu'ils nous agressent, nous, la France Insoumise, sur les réseaux, ne veulent même plus qu'il y ait des images qui soient montrées lorsqu'il y a des choses qui, selon moi, ne correspondent pas au métier de policier. Moi, je dis que ça, c'est une restriction des libertés publiques et ça ne rend pas service à la police républicaine. Voilà mon opinion.
On va vous rassembler à partir de demain
à l'Assemblée nationale. Nous, on va porter cette idée que la police doit être défendue comme service public de qualité qui effectivement protège les citoyens, assure la sûreté, doit être améliorée dans ses conditions de travail. Mais cette espèce d'omerta qu'on veut dire désormais ne filmez plus lorsqu'une interpellation de police ne correspond pas au code du métier, je suis pas d'accord. Moi, je suis prof. Là, les profs, faut les défendre. Mais quand un prof fait mal son métier, il doit être sanctionné. C'est pareil pour les policiers. Voilà, c'est tout. Ni plus ni moins. Et je suis pas anti-flic quand je dis ça. Je dis vive la police républicaine. Mais je suis pas d'accord pour qu'on tabasse des manifestants au sol.
Jean-Luc Mélenchon donc a annoncé sa candidature. Maintenant, il faudra aussi les 500 signatures. Est-ce que vous appelez le PC à se ranger avec vous ou alors
Je dirais pas le mot se ranger, mais j'invite le Parti communiste et d'autres gens. Je vais pas tous les citer, mais on discute pour qu'effectivement il y ait un grand mouvement qui se fasse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Mélenchon, il a impulsé les choses. Il y a une semaine en disant allez, moi je suis disponible pour être candidat. Je veux juste vérifier une chose. Est-ce qu'il y a un soutien citoyen pour commencer? Il a demandé 150 000 personnes qui le soutiennent, qui correspondait à ce que Lionel Jospin a fait comme proposition pour être candidat, pas seulement 500 signatures de maire, mais aussi 150 000 citoyens. À l'heure où je vous parle, une semaine plus tard, on en est à 172 000. Donc ça, il y a un premier mouvement qui est fait. Et en plus, le Covid fait qu'on ne peut pas tenir de réunion, donc tout ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais après, il faut essayer de lever une force. Et si le Parti communiste, à l'heure où je vous parle, j'observe que Sébastien Jumel, député communiste, M. Gilles Poux, maire de la Courneuve, maire communiste, soutient Jean-Luc Mélenchon, c'est depuis hier que ça vient. Donc il y a un débat dans les organisations.
Mais
pour dire...
pourquoi il faut que le PC soit à vos côtés? Pour être plus fort et pour avoir les signatures, vous aurez du mal à avoir les 500 signatures?
C'est pas simple à obtenir 500 signatures. Et je vais vous dire, c'est un problème démocratique d'ailleurs. Moi j'observe que même si c'est mes adversaires politiques, est-il normal que le Front National, qui rassemble 15-20% plus que ça, ait des problèmes pour avoir 500 signatures? Est-il normal que la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 19%, ait des problèmes pour pouvoir...
Et là vous avez l'impression que c'est dur en ce moment?
Non, on commence à peine, mais ce que je sais, comme la dernière fois, il faudra mettre une équipe au boulot pendant des mois. Bon, c'est épuisant. Je veux dire, est-ce que c'est démocratique, ça? C'est la raison pour laquelle on dit, il y a peut-être une autre voie. Il y a les 500 signatures de maire, mais il y a le parrainage de 150 000 citoyens. On fait cette proposition de loi, on va déposer une loi à l'Assemblée nationale. Ça permettrait de vérifier que le premier Gugus venu puisse pas se présenter, mais que quand même des forces significatives puissent le faire sans avoir 500 notables. Je dis le mot méchamment. Je me range dedans. Je suis un député, mais c'est le filtre des élus et pas toujours le filtre le plus représentatif d'une société.
Allez, question avec Cécile Ménibus, la dernière.
Oui, vous avez vu, la jeune Mila a à nouveau été cible de menaces de mort après avoir publié une vidéo où elle s'en prend à Allah. Une enquête a été ouverte. Est-ce que vous êtes comme Marlène Schiappa, Mila?
Mais il est hors de question que quiconque se fasse menacer sur les réseaux sociaux ou ailleurs parce qu'elle a exprimé une opinion. Ces menaces de mort sont intolérables. Maintenant, moi, je trouve que Marlène Schiappa, elle n'arrête pas de parler, mais elle est ministre. Elle est même ministre quasiment liée au ministre de l'Intérieur. Elle ferait mieux de sanctionner, parce qu'on peut retrouver avec l'IP l'adresse numérique de la personne qui envoie ces menaces. J'ai vu la tête coupée de la jeune fille, tout ça est ignoble, de sanctionner les personnes. Bon, je comprends pas. On a l'impression qu'elle ne cesse d'en parler et il y a peu d'actions, de sanctions démonstratives. Donc, j'ai dit à Marlène Schiappa, plutôt qu'en permanence de nous dire c'est scandaleux à la jeune Mila, ce qui est vrai, il est scandaleux. Montrez-nous des cas concrets, agissez et sanctionnez le moindre type, je dis un type, si c'est un homme, j'en sais, j'imagine, plutôt la moindre personne, on va dire, qui sanctionne Mila ou quelqu'un d'autre doit être sanctionné. Mais ce travail, on peut le faire à l'heure actuelle, mais il faut qu'ils agissent. Alors, comment on fait souvent ? Vous avez la plateforme dite Pharos, qui doit permettre de trouver les gens violents. Mais Pharos, jusqu'à présent, c'était très peu de gens. On a vu, à l'occasion du meurtre de Samuel Paty, c'est une vingtaine de personnes qui surveillaient tout ce qui se passait sur les réseaux. C'est la discussion de tout à l'heure. Embaucher. Alors là, Darmanin a dit désormais... Non mais, donc, je reviens à l'essentiel. Il est hors de question que Mila ou qui que ce soit se fasse menacer de mort sur les réseaux sociaux. Je dis qui que ce soit parce que nous aussi, je connais des syndicalistes menacés de mort, etc.
Donc pas de problème avec le blasphème pour vous.
Mais évidemment, non mais je veux dire, déjà ça c'est un vocabulaire religieux. En France, on a le droit de critiquer les religions dans les limites de la loi. C'est, évidemment, on n'a pas le droit de tenir des propos xénophobes, antisémites et tout ça, mais Mila doit pouvoir s'exprimer, quel que soit ce qu'on pense de ce qu'elle a dit. C'est pas le sujet.
Allez, il est 8h. Merci Alexis Corbière, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Il est 8h, un petit peu de retard pour le journal dans un instant, avec Arthur Delaborde.
À tout de suite.